France Inter, le 6-9 du week-end.
La main verte avec vous, Alain Baraton. Bonjour mon cher Alain.
Bonjour mon cher Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous. Alain.
Deuxième volet de ce concours, l'arbre de l'année 2020, concours parrainé par le magazine Terre Sauvage et l'Office National des Forêts. Quoi de neuf?
Ah oui, je voulais vraiment en reparler, nous en avons parlé hier parce qu'on a beaucoup parlé du concours Miss France. Eh bien, on va parler maintenant de ce concours des arbres. Alors, ce concours est fait avec le soutien de la Ligue de protection des oiseaux, l'association Arbre et l'Agence des espaces verts de la région Île-de-France. Alors, j'ai évoqué hier samedi les modalités pour voter et déjà exprimé mon admiration pour quelques arbres magnifiques.
Alors, mais pour quel arbre seriez-vous tenté de voter, vous, Alain Baraton?
Le choix est difficile.
Mais hier, déjà, Eric vous a posé la question et vous n'avez pas répondu.
Mais vais-je répondre? Ah oui, quand on regarde le ficus,
incroyable, hein.
Oui, quand on regarde le ficus macrophylla planté en 1870 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on ne peut être qu'admiratif. Que dire du chêne vieux de 400 ans qui représente les Pays de la Loire? Vous imaginez, Patricia, ce qu'il pourrait raconter s'il était doué de paroles? Le chêne d'Occitanie, lui aussi, a été le témoin de quantité d'événements. Le platane de Normandie se souvient des bombardements qui ont détruit le Havre en septembre 1944. Son écorce boursouflée emporte encore les stigmates.
Quels sont les autres arbres en compétition?
Le Gingko biloba de la région Centre-Val de Loire, le chêne aux mille visages de Bretagne. Ce n'est pas une écorce qu'il possède, mais une galerie de portraits, mais réservée à ceux qui savent les voir. Le peuplier noir de la région Grand Est, avec une circonférence de presque 10 mètres. Pour un peuplier, c'est considérable. Le cèdre bleu de l'Atlas pour la région Île-de-France, les deux liquides en barre, orientaux pour la Nouvelle-Aquitaine.
En fait, vous en avez oublié un spécialement.
Eh oui, mon préféré, eh bien oui, le tilleul de Jonquois dans les Hauts-de-France. Il a été découvert lors d'une randonnée par une promeneuse passionnée de nature. Voici ce qu'elle écrit. Cet arbre peut être considéré comme un survivant. Une carte de 1706 indique qu'il y en avait là trois tilleuls aujourd'hui tous disparus. En 1650, le village fut pillé et livré aux flammes. En 1721, l'arbre aurait été foudroyé, ce qui l'aurait fendu en deux. En 1418, le village sera rasé par les obus, mais lui sera épargné par le fait qu'il est un peu à l'écart du village. Et en 1999, il résistera à la tempête, certainement grâce à sa petite taille, environ 8 mètres. Alors, j'aime cet arbre-là parce qu'effectivement, à lui seul, c'est une leçon de courage. Pour voter, je le rappelle, parce que j'aime cette élection. Il n'y a rien à gagner, c'est merveilleux. Et ce sont des passionnés, ce sont des gens comme vous, Patricia, comme vous, Eric, qui se sont promenés et ont volontairement inscrit un végétal. Donc pour aller voter, il faut aller visiter le site Arbre de l'année. Mais faites vite. Vous n'avez plus qu'aujourd'hui et demain pour voter.
C'est bien entendu. À présent, vos réponses et vos conseils aux auditeurs de France Inter. Yves Christophe, par exemple. Vous demande, Alain Baraton, comment protéger pour l'hiver un pied d'angélique planté en pleine terre.
Ah, l'angélique, cette très jolie plante qui forme de grosses touffes d'ailleurs et qui peut atteindre une hauteur de 1 mètre voire 2 mètres de hauteur et qui résiste à moins 35 degrés.
Ouais,
alors, vous avez compris qu'avant de protéger l'angélique, il faut vraiment se délocaliser et aller du côté de la Terre Adélie.
Question autour du lierre à présent. Question de Pascal. Faut-il enlever le lierre qui grimpe le long des cerisiers? Il y a une deuxième question. Pourquoi pousse-t-il seulement ce lierre sur certains arbres?
Alors, pour la première question, non, on peut le laisser. Je vous rappelle que le lierre abrite des insectes. Ces insectes attirent les oiseaux. Les oiseaux peuvent boulotter les cerises, j'en conviens, mais peuvent aussi débarrasser le cerisier de tous les insectes qui vont venir pondre, par exemple, des œufs dans la cerise. C'est un écosystème assez particulier. Donc, le lierre sur le cerisier n'aura de problème que s'il envahit le cerisier. Et dans quel cas, c'est que le cerisier est en mauvais état. Écoutez, j'ai observé dans mon jardin, j'ai la chance d'avoir un pied de noisetier extraordinaire. Il part de la base, il y a une trentaine de rejets, et il y a deux rejets qui sont morts. Eh bien, le lierre n'a envahi que les pieds morts. C'est-à-dire que les pieds en bonne santé, le lierre les ignore complètement, je n'invente rien. Alors, pourquoi le lierre bat-il sur certaines plantes plutôt courtes que d'autres? Parce que le lierre est capable tout simplement de détecter comment, je ne sais pas, l'état de santé du végétal. Mais regardez dans la nature, un arbre est dépérissant, il a du lierre, l'arbre à côté en pleine forme, lui n'en a pas. Donc le lierre a une manière de voir les arbres que vous ne pouvez pas encore comprendre.
C'est la nature qui parle. Pierre voudrait vous parler de son érable. Un érable qui surplombe son jardin. Il est atteint de verticillose.
Oui.
La contagion peut-elle passer par le compost de ses feuilles ou bien par les feuilles qui retombent sur notre jardin?
Par les feuilles, oui. Par la déjection des animaux qui auront mangé éventuellement des graines ou par les graines également. C'est quelque chose de très compliqué. La verticillose, en fait, va bloquer la circulation de la sève et la plante va mourir brutalement. Alors, on ne va pas tuer non plus tous les arbres à alentour, parce qu'un arbre est contaminé. Ce qu'il faut simplement faire, c'est effectivement éliminer les feuilles mortes à l'automne, les évacuer du terrain, éviter dans la mesure du possible le compost, même si je ne pense pas que la maladie se transmette par le compost, mais effectivement éviter de trop mettre en contact cette maladie, qui peut également être contactée par les racines également. C'est très compliqué.
On va terminer avec votre conseil du dimanche.
Je salue mes amis et collègues de l'Académie d'agriculture de France qui publie le grand livre des arbres et de la forêt. C'est sorti en librairie en novembre. C'est tout est dit. Ce sont des passionnés qui s'y connaissent en matière de végétaux. Ils sont tous très doués dans le domaine de la forêt. Ils ont écrit un livre savant. C'est l'Académie d'agriculture de France, mais vraiment très très intéressant à lire, et c'est publié chez Odile Jacob.
Le titre du livre ?
Le grand livre des arbres et de la forêt.
Merci Alain Baraton, à samedi prochain.
À samedi.